que quand vous avez entendu Ricardo énoncer le thème de ce soir, la foi chrétienne, un saut mystique dans l'inconnu ou une démarche raisonnable, ça vous est peut-être soit venu à l'esprit dans les années précédentes d'un thème de philosophie de vie tous les jours. L'idée ce soir, ce n'est pas de faire la philo, c'est d'essayer d'être pratique et de voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi aujourd'hui face à tout ce qu'on voit autour de nous, face à la science, face à tout ce qui se passe autour de nous, et savoir si finalement, est-ce que le choix de croire en Dieu, de croire en Christ, est un choix qui peut paraître raisonnable en fait. Et par rapport à ça, deux, trois petites questions pour démarrer. Levez la main, qui a déjà lu sa Bible? Juste au moins une portion de la Bible. Qui a déjà ouvert sa Bible et a déjà lu? Super. Qui a déjà fait des études dans les sciences? Tom est en quatrième, il a déjà fait des études dans les sciences. Donc je pense que vous n'avez pas tous fait des études dans les sciences. Ne cherche pas à joindre le niveau très très haut. Qui peut-être parmi nous poursuit ou a fait des études vraiment scientifiques jusqu'au bout et peut-être travaille maintenant dans un domaine ou un autre scientifique. Il y en a quelques-uns parmi nous aussi. Dernière question. Est-ce que, en voyant ce que la Bible disait, en lisant votre Bible, et en voyant ce dont on vous parlait dans des cours de sciences naturelles ou autre chose, est-ce que ça a déjà, pour vous, vous avez déjà ressenti un certain décalage entre ces choses? Moi, j'ai ressenti un certain décalage très rapidement. Alors, Ricardo l'a dit, juste un petit bref bout de témoignage. Ricardo l'a dit, je suis ingénieur en électronique. Bon, aujourd'hui, je suis plus manager de personnes que vraiment dans les sciences. Mais en fait, je ne viens pas du tout d'un milieu scientifique. Mes deux parents sont nés dans une ferme. Mes aïeux sont tous agriculteurs. Ils n'ont pas poursuivi l'agriculture, ils ont dû changer de mode de vie parce que les fermes s'arrêtaient, il y avait des difficultés. Mais toujours est-il qu'en fait, quand je suis arrivé en 6e, 5e, grosso modo, j'avais fait plus d'études que mes parents. Parce que mes deux parents étaient dans des fermes, et donc à l'âge de 10, 12, 13 ans, c'était fini les études, fallait aller aider à la ferme pour faire tourner la maison. Et donc, quand je suis arrivé dans ces années, même si j'avais quand même deux grands frères devant moi qui ont aussi fait des études en sciences, mais quand je suis arrivé à cette période-là de l'adolescence, d'être étudiant, c'est forcément des questions qui m'ont touché moi, qui m'ont impacté. De dire, on me dit des choses à l'école, au collège, au lycée, à la fac, que ce ne soit pas forcément simplement dans les domaines des sciences naturelles, mais dans toutes les choses. Et de l'autre côté, il y a le message de la Bible. Comment je concilie les deux? Comment je peux vivre? Est-ce qu'il y a un moment donné, je me mets du point de vue du collège, du lycée, de mes années d'études, dans mon travail scientifique, de la science, et puis le dimanche ou un autre moment, ou le samedi soir, je me mets de l'autre côté, puis il y a Dieu. Comment je fais ça? Moi, j'ai vécu ce décalage à un certain âge, et je me suis demandé, mais comment je vais faire pour concilier? Et le but ce soir, moi, mon objectif en tout cas ce soir, c'est d'essayer de réunir les deux. De concilier les deux, parce que je pense que c'est important aujourd'hui à notre époque, notamment parce qu'on se pose plein de questions et qu'on est face à des personnes, des amis, des collègues de travail qui se posent plein de questions par rapport à ces sujets-là. Et il faut, je pense, avoir des réponses aussi sensées par rapport à ces sujets-là. Donc l'objectif de ce soir, c'est d'être vraiment pratique et de pouvoir vous aider. Et j'espère de pouvoir, à la fin de cette soirée, encore plus adorer et aimer notre Seigneur, parce que je pense qu'il y a un lien fort entre les choses. Alors, on commence par ce qui est un peu fâcheux. Karl Marx, il a dit, il allait jusqu'à affirmer que croire en Dieu était le signe d'un trouble mental. Il allait fort. Freud, lui, il a écrit plutôt que la foi en Dieu était une illusion due uniquement à des espoirs inassouvis. C'est un cas qui a des espoirs inassouvis et aboutissant à une position irrecevable. Ce n'est pas possible. Nietzsche a dit clairement qu'avoir la foi revenait à refuser de voir la vérité en face. Celui ou celle qui a la foi, il refuse de voir la vérité qui est en face. Et plus récemment, dans son livre « Pour en finir avec Dieu », le titre est fort, Richard Dawkins, peut-être certains connaissent, soutient que vous ne pouvez pas à la fois être un penseur scientifique, quelqu'un qui a une intelligence scientifique, qui a un raisonnement, on va dire, et avoir des convictions religieuses. C'est pas possible pour cela, pour lui. C'est l'un ou c'est l'autre. Soit on est scientifique, soit on est religieux. Et pour appuyer ce qu'il dit, il cite une étude qui montre que seulement 7% des scientifiques américains appartenant à l'Académie des sciences croit en un Dieu personnel. Et cela prouve, selon lui, que plus vous êtes intelligent, rationnel, doué pour les sciences, et moins vous êtes capable de croire en Dieu. Plus doué pour avoir les sciences, moins capable de croire en Dieu. Et si vous n'étiez pas encore convaincu, je peux encore vous dire que d'après un sondage récent, 49% des Français pensent que plus les connaissances scientifiques progressent, et plus il est difficile de croire en Dieu. Plus la science progresse, plus il est difficile de croire en Dieu d'après une majorité de Français. Ils parlent français. Alors, est-ce qu'ils ont raison ? La foi en Dieu, est-ce que c'est une position indéfendable rationnellement, de manière rationnelle ? Est-ce qu'on peut avoir un esprit rationnel, un esprit scientifique ? Je vous ai dit, je ne suis pas un scientifique, j'ai un esprit scientifique. C'est comme ça que ça m'a guidé dans mes études et c'est comme ça que ça m'a guidé dans la première partie de ma carrière professionnelle. Avoir cet esprit scientifique et en même temps avoir la foi, en même temps croire en Dieu. La science a-t-elle démontré que les croyances chrétiennes, c'était faux, une illusion. Est-ce qu'on doit choisir entre la science et un parcours scientifique et notre foi en Dieu? La réponse, j'espère qu'on arrivera au bout dans ce sens-là, c'est que non. Parce que moi-même, comme je dis, je suis un esprit scientifique rationnel, terre à terre, je veux dire, mais j'ai la foi. Je crois en Dieu. Et c'est important de revenir sur ces choses-là pour vraiment avoir à l'esprit que c'est possible d'être à la fois rationnel et à la fois de croire en Dieu. Et on compare trop souvent la foi à une espèce de saut dans le vide. Je crois donc je suis prêt à sauter dans le vide. Alors que la foi, je crois, n'est pas qu'une question de mysticisme. Certes, la foi demande un saut, il faut y aller. Mais ce n'est pas qu'une question de mysticisme. On ne fait pas un saut qui ne serait pas raisonnable, sans conviction. La foi, je crois, repose sur notre foi en Christ, repose sur les arguments solides. Et on va essayer de les voir ensemble, cette fois. D'abord, première chose par rapport à ça. Première chose, par rapport à science et foi, ce qui est important, c'est de comprendre que ils ont des objectifs différents. On va essayer de remplir ce petit tableau ensemble. Qu'est-ce que la science pose comme question ? Dans une démarche scientifique, quelles sont les questions que vous posez par rapport peut-être au monde autour de nous, à ce qui se passe, aux expériences ? Qu'est-ce qu'on pose comme question ? Comment ? Tout à fait. Quand ? Comment ? Quand ça s'est passé ? Comment ça a eu lieu ? La foi, elle ne pose pas la même question. Quelle est la question que pose la foi ? Pourquoi ? Pour qui ? Qui ? C'est ça les questions de la foi. Pas les mêmes questions. Au niveau de la méthode, c'est quoi la méthode des sciences ? Quelles sont les méthodes utilisées par la science ? Pour, hypothèse, après l'hypothèse, il y a quoi ? Expérimentation, tout à fait. On observe, on fait des hypothèses, on confirme expérimentalement ce qui se passe. Comment la foi, quelle est la méthode de la foi pour qu'on puisse l'intégrer ? Le dernier livre de la Bible, en anglais, ça a une bonne connotation. Révélation, voilà, tout à fait. C'est une révélation. Dieu se révèle à nous. D'accord ? C'est pas nous qui nous révélons à Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Vérité, comment est la vérité scientifique ? Est-ce que c'est établi une fois pour toutes ? Non, pas forcément. C'est partiel, ça peut évoluer, c'est éphémère. Parfois, il y a une remise en question. Certes, il y a des choses un peu simples, toujours deux, on est d'accord ? Et la vérité de la foi ? Elle est absolue, elle est éternelle. La Bible nous parle d'elle comme la parole de Dieu. Il n'y a pas de remise en question par rapport à ça. Le langage, comment est le langage scientifique ? Comment est le langage ? C'est apporté tout le monde ? Pas forcément, hein. C'est plutôt précis, technique, c'est une histoire de spécialiste, une expertise. La parole de Dieu, c'est quoi son langage ? Comment est son langage ? Abordable, ouais. Plein de différences, hein. Il y a des symboliques, poètes, c'est un langage immuable, en tout cas c'est un langage simple, mais pas simpliste. D'accord ? On est bien. Chacun peut l'entendre, on peut l'écouter, mais il y a besoin de réflexion quand même. Le but de la science, c'est quoi le but ? Démontrer, ouais. J'ai mis comprendre l'univers, comprendre la vie, comprendre tous les mécanismes physique qui accompagne la vie et qui accompagne notre univers. Le but de la foi, c'est quoi? On devait résumer en quelques mots.
Ok, ouais. J'ai mis dans le sens, par rapport à la science, ramener l'homme vers Dieu. Le but, c'est que nous soyons ramenés vers Dieu.
Donc c'est important de se poser juste par rapport à ce tableau, parce que ça nous montre tout de suite que la science et la foi ne répondent pas aux mêmes questions, que la science et la foi n'ont pas le même but. Et c'est important d'être dans cette démarche, de bien comprendre ce qu'est la science et la foi.
La science a des limites. Quelles sont les limites de la science?
Je pense que humaine, ouais.
Pas tout à fait.
Quelles autres limites?
C'est en lien avec les questions. La science ne pose pas la question du pourquoi.
La science ne répond pas à les questions pourquoi je suis ici. La science ne répond pas à la question qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi j'ai la vie? Pourquoi je suis né?
C'est au-delà du débat de la science. Ce n'est pas un problème scientifique en tant que tel.
Donc la science a des limites. La foi aussi a des limites.
Lesquelles? Toujours par rapport aux questions.
La foi ne cherche pas forcément à répondre au comment dans tous les détails.
Et c'est une erreur si on prend par exemple la Bible comme un livre scientifique. La Bible ne se présente pas comme un livre scientifique, elle se présente comme la révélation de Dieu pour l'homme. Ça ne veut pas dire que cette révélation est entachée d'erreurs ou d'imprécisions, mais ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas un livre scientifique. La Bible ne se présente pas comme un manuel pour dire comment, pour répondre à toutes les questions communes. Elle ne nous explique pas comment se forme, je ne sais pas moi, trois étages de l'eau. Enfin, elle ne nous explique pas ces choses-là. C'est la science qui s'en est. Et donc, il faut bien faire le distinguo. Savoir, reconnaître qu'il y a un domaine pour la science et qu'il y a un domaine, merci, qu'il y a un domaine pour la foi qui ne sont pas les mêmes, on ne répond pas aux mêmes questions. Et c'est important de se poser là-dessus.
La science se limite quelque part à décrire notre espace-temps, notre monde, la matière, tout ce qui la compose. Elle ne fait que décrire. Le but, c'est de décrire comment se passent les choses. La foi, elle répond au pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que la vie? Et ces approches de la réalité sont complémentaires et non conflictuelles. Ces approches de la vie sont complémentaires et pas conflictuelles. Mais souvent, malheureusement, on cherche à faire un conflit entre la science et la foi. Souvent dans le débat autour aujourd'hui, c'est souvent le cas. Et en réalité, moi, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que quand on parle de conflit entre la science et la foi, en fait, ce n'est pas un conflit entre la science et la foi. C'est un conflit entre des philosophies de vie différentes, entre des visions du monde différentes, entre ceux qui disent avoir la science et ceux qui, aussi parfois, dans l'autre sens, aussi, malheureusement, disent avoir la foi. C'est un conflit plus de vision du monde. Et ils discutent non pas de théorie scientifique, mais plutôt de la manière dont ils conçoivent le monde des deux côtés. Par exemple, si on reprend le débat régulier par rapport à l'évolution et la création, qu'est-ce que disent les évolutionnistes? Les évolutionnistes, en fait, ils supposent simplement qu'il y avait des formes, que les formes de vie plus complexes, d'accord, évoluent à partir de formes de vie plus simples, avec un mécanisme de sélection naturelle. Et moi, ça, on va dire, ça ne me gêne pas, et il y a des chrétiens qui pensent que c'est l'évolution qui a permis à créatures à ce qu'on voit de remonter, il y a des chrétiens qui pensent que c'est la même place en 6 jours. Mais si vous voulez, personnellement, ça ne me dérange pas, ça ne me pose pas de problème qu'un chrétien puisse penser que le système d'évolution a permis aux animaux à ce qu'on voit autour de nous d'exister. Par contre, le problématique, c'est à partir du moment où la science, c'est ce qu'on appelle la science, affirme que le hasard a permis ces choses-là de mettre en place, c'est là où ça devient plus la science. Parce qu'on n'a pas de manière d'expérimenter ça. On n'a pas de démonstration. On ne peut pas y mettre une hypothèse et la démontrer pas sur ce point-là. Donc à partir du moment où on met le hasard, par exemple, dessus, ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? On passe du domaine de la science, au domaine de la vision du monde, au domaine de la philosophie, quelque part. Et quelque part, quand on met le hasard, qu'est-ce qu'on veut mettre? D'une manière ou d'une autre, pour beaucoup de scientifiques athées, ben, pas de Dieu. On n'a pas d'explication. Donc on cherche une explication qui nous arrange. Mais on n'est plus dans la science, on n'est plus dans la description de fait, on n'est plus dans l'expérimentation, on n'est plus dans l'hypothèse qu'on démonte pas. On est dans une philosophie scientifique, une philosophie de vie, quelque part. Et c'est là où il y a débat. Et ce n'est pas un conflit scientifique, mais un conflit philosophique, de manière de penser dans la science. Ça va pour l'instant ? Les évolutionnistes, qui prennent souvent part au débat par rapport aux origines de la vie, conçoivent en fait la vie d'une façon purement mécanique. Et la mécanique, l'évolution, c'est passé comme ça avec le hasard et toutes ces choses-là. Et on peut faire l'hypothèse scientifique que les espèces se sont transformées en cours des années. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Mais en tant que scientifique, dès qu'on affirme que c'est le hasard, on n'est plus dans l'hypothèse démontrable. On est dans la philosophie encore une fois. Et de l'autre côté, dire que la science, comme parfois peut-être certains le font, pose la question d'un créateur, ben ce n'est pas une démarche scientifique non plus. Parce que la Bible n'est pas là pour te répondre à tous nos comment, elle est là pour répondre à nos pourquoi. Et donc, la science a prouvé que l'univers, par exemple, est réglé par des constantes, qui fait que si on touchait à un pouillème d'une constante, il n'y aurait rien de tout ça, rien de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, la science l'a prouvé, clairement. Mais la science s'arrête là. Elle voit un fait. C'est un constat physique. S'il y a certaines constantes qui bougent, ben, il n'y a plus rien. C'est un fait. Mais la science ne va pas plus loin. Et la science ne répond pas à la question de est-ce qu'il y a quelqu'un derrière. Ce n'est pas le rôle de la science. Parce qu'elle ne peut pas expérimenter ce choses-là. La science ne peut pas prouver Dieu. Elle est incapable de prouver Dieu. Et quelque part, dans ce débat, souvent où on essaie d'opposer la science à la religion, on va dire, ou à la foi, c'est qu'on prend en otage la science d'une certaine manière. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un débat scientifique qu'on fait sur des hypothèses scientifiques qui seraient faites d'un côté ou d'autre. Mais c'est un débat de vision du monde, c'est un débat de philosophie de vie, de manière dont on conçoit nos origines. Et ça c'est pas un débat scientifique, c'est un débat religieux côté d'une certaine manière. Parce que par rapport à ces choses-là, il y a des questions, des choses. Bon pour tout le monde ? On poursuit. Il y a un des aspects qui souvent est mis en avant quand on parle de ce débat de science et foi, c'est l'aspect des miracles. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de personnes, la science a prouvé que le miracle n'est pas possible. La science est en opposition avec la foi parce qu'une grande partie des récits, une grande partie, une petite partie finalement, des récits bibliques évoquent des miracles. Et c'est vrai que c'est très difficile de croire aux miracles. Matthieu 28, versets 16 à 17, les disciples de Jésus. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Jésus venait d'être ressuscité. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Quelques-uns, cependant, ces gars-là, les disciples, ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus. Jésus leur a expliqué qu'il allait mourir et ressusciter plusieurs fois. Jésus est mort. Il revoit Jésus. Donc, ils ont eu des doutes. Et c'est vrai que c'est difficile de croire en miracle. Même pour des pêcheurs, quelques-uns, je ne sais pas si c'était des pêcheurs qui ont eu des doutes ou d'autres, même pour des pêcheurs galiléens du premier siècle de notre ère. Donc, face au miracle, il ne faut pas croire, comme parfois on l'entend, que nous, aujourd'hui, très évolués au XXIe siècle, avec toute la science qu'on a, avec le collège et les choses, on est les seuls à émettre des doutes. On est les seuls à se poser des questions. Les disciples les plus proches de Jésus ont les mêmes doutes, les mêmes questions. Et donc, même à cette époque-là, l'idée du miracle posait des questions et mettait des doutes. Pour beaucoup, les récits bibliques ne peuvent pas être fiables parce qu'ils contiennent des descriptions de miracles. Et pour eux, la science a prouvé que les miracles n'existent pas. En fait, je crois qu'il faut faire preuve de foi, là aussi, pour affirmer une chose comme ça. Que la science a prouvé que les miracles n'existent pas. Il y a de la foi qui rentre en ligne de compte. Je vais vous expliquer. C'est une chose de dire que la science n'est faite que pour tester des causes naturelles. science est là pour tester des causes naturelles, des choses, des phénomènes naturels qu'on peut observer. Mais c'en est une autre d'affirmer qu'aucune autre cause ne peut exister. Voilà la citation d'un scientifique athée, il dit « La science avance en se fondant sur l'hypothèse que tout événement qui se produit dans le monde peut être expliqué par d'autres événements tout aussi réels et donc, par conséquent, le miracle est inconciliable, avec notre compréhension moderne de la science. On observe quelque chose, c'est dû à un phénomène naturel, c'est dû à un autre phénomène naturel, et on fait la pour comprendre comment c'est arrivé. Ce que cette personne explique, c'est que quelque chose qui n'a pas une cause naturelle ne peut pas être réel, ne peut pas être vrai. Et il a raison de dire quelque part que la science doit toujours supposer qu'il existe une cause naturelle à ce qui est vu. Pourquoi ? Parce que la science ne se base que sur des causes naturelles. La science n'a pas vocation à chercher d'autres causes. Elle ne peut pas expérimenter d'autres causes qu'une cause naturelle. Et donc pas une cause surnaturelle, pas une cause miraculeuse. Il n'existe pas de dispositif expérimental capable de tester une affirmation du type « Aucun phénomène naturel ne peut avoir une cause surnaturelle ». On ne peut pas démontrer ça physiquement. Quelque chose qui est naturel, qui vienne de quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible de tester ça scientifiquement. Donc il ne s'agit pas de science, là, mais d'un présupposé philosophique, encore une fois. Un présupposé, une vision du monde. L'autre pensée derrière la phrase « Il est impossible que le miracle se produise », et qu'il ne peut pas y avoir de Dieu. Le Dieu qui opère des miracles. Mais s'il y a un Dieu créateur, alors c'est possible. Le problème, c'est que la science n'est pas là pour répondre à la question « Est-ce qu'il y a un Dieu ?» Parce que la science n'est pas capable d'expérimenter Dieu. La science n'est pas capable d'émettre une hypothèse sur Dieu et de la vérifier. Dieu ne se met pas dans un bocal. Donc c'est hors de portée d'une réflexion, d'un développement scientifique. Et donc, dire qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de Dieu, c'est partir d'un présupposé philosophique quelque part. Ce n'est pas une science, c'est une philosophie, une façon de voir la vie, une vision du monde. Et juste par rapport au miracle de Jésus, le miracle que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle notamment? Qu'est-ce qu'il faisait? Le miracle le plus régulier, on va dire. Il guérissait, tout à fait. Il donnait quoi aussi aux gens qui étaient affamés? Nourriture, notamment. Il a même plus que guéri, il a ressuscité certaines personnes. Hein. Et quelque part, souvent, quand on voit ces choses-là, on se dit, c'est un miracle, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui sort de la réalité. Mais si on y réfléchit bien, de ce que la Bible nous révèle sur le monde tel que créé par Dieu au départ, est-ce qu'il y avait du mal? Est-ce qu'il y avait la mort? Et quelque part, Jésus, quand il crée, quand il fait un miracle, il n'est pas en train de faire quelque chose qui est surnaturel. À nos yeux, oui. Mais il fait quoi? En fait, il revient au naturel, à ce qui était prévu dans le plan de Dieu au départ. Mais le plan de Dieu au départ, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas des gens affamés, ce n'est pas la mort. C'est un autre plan. Jésus revient au naturel. C'est un miracle. Jésus revient à ce qui est naturel. Et pour affirmer que les miracles ne peuvent pas se produire, on devait être certain, sans l'ombre d'un doute, que Dieu n'existe pas. Et c'est un acte de foi. De la même manière que quand je dis que je crois que Dieu existe, c'est un acte de foi, la personne qui affirme que Dieu n'existe pas fait aussi un acte de foi de la même manière. Parce que la personne qui affirme que Dieu n'existe pas, comme moi, quand j'affirme qu'il existe, ne peut pas prouver scientifique par A plus B que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe, parce que Dieu ne se prouve pas, Dieu ne se met pas dans un bocal. Donc il faut prendre ça large, prendre du recul et se rendre compte que ce n'est pas une vision scientifique, mais c'est une vision du monde, une philosophie du monde, encore une fois, qui change, qui est différente dans notre société actuelle. Un autre point par rapport à cela, c'est Dieu. Trop souvent, on associe le fait de croire en Dieu à un acte de foi excluant toute raison. Le gars, complètement déraisonné, il a cru en Dieu, il a sauté du 10e étage de l'immeuble sans savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient peut-être l'accueillir, des pompiers ou je ne sais quoi. Non, il a fait un saut de foi, quoi. Il est fou. Trop souvent, on croit que c'est ça, l'acte de foi, de croire en Dieu. Bien, je crois que c'est une mauvaise définition de ce qu'est la foi, personnellement. Si on définit la foi comme une démarche irrationnelle, un saut mystique dans l'inconnu quelque part, alors en effet, il n'y a pas de raison, il n'y a rien de raisonnable dans cette idée. Rien de raisonnable. Mais je crois que la foi n'est pas moins raisonnable que de ne pas avoir la foi. L'existence de Dieu, encore une fois, ne peut pas être prouvée, ni réfutée. Et la Bible nous dit que nous devons l'accepter par la foi. Hébreux 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oui, il y a un acte de foi à avoir. Mais cet acte de foi, je crois, n'est pas moins raisonné que l'acte de foi de ne pas croire en Dieu. Tu vois ? Que je dise que je crois en Dieu, que je dise que je ne crois pas en Dieu, d'une certaine manière, que je le veuille ou non, je fais un acte de foi. Parce que je ne sais pas. Je ne peux pas prouver par tout ce que je n'ai pas de preuves pour moi. Mais je crois qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu. Déjà, deux qu'on trouve dans la Bible. Psaume 19, verset 2-4, qui nous dit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre, une nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. » La Bible nous dit que le monde qui nous entoure, le fait qu'il fonctionne, qu'il tourne, qu'on puisse vivre encore aujourd'hui, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Si ça ne suffit pas, on retrouve aussi des preuves de Dieu dans notre cœur. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit au commencement à la fin. Donc quelque part, dans le plus profond de notre être, de chaque être vivant, chaque homme, chaque femme, nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui dépasse cette vie. Pourquoi, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont essayé d'avoir un espoir sur un avenir après la mort, essayé de chercher un Dieu à travers ce qu'ils pouvaient observer autour d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça, un sens de l'éternité en nous. C'est bien beau tous ces arguments, ces deux arguments. Vous allez me dire, ça vient de la Bible. Elle a quand même un certain parti pris, la Bible, sur ce débat, sur l'existence de Dieu. C'est vrai. Mais au-delà des arguments bibliques en faveur de l'existence de Dieu, je crois qu'il existe aussi quelques arguments logiques et raisonnables. Ce ne sont pas des arguments qui vont prouver que Dieu existe, mais ces arguments pour montrer que croire en Dieu n'est pas moins raisonnable que de ne pas croire en Dieu. Et je vais vous en citer cinq. Alors, je suis désolé, il y aura des termes un peu barbares. Ça peut faire bien quand vous rentrez chez vous l'année, vous pourrez sortir deux, trois termes qui sont sympas. Et voilà, on va essayer de les expliquer en même temps. Le premier argument, il est ontologique. Alors, la preuve dite ontologique est un argument qui entend prouver de manière logique l'existence de Dieu. En analysant le concept de Dieu, et on dit qu'elle est ontologique, parce qu'elle s'appuie sur la définition de l'être, de l'ontos de Dieu. Elle s'appuie sur qui est Dieu. L'idée, c'est qu'il est dans l'être de Dieu d'exister. Il est dans l'ontos de Dieu d'exister. Je vous explique. Trois phrases, ça sera toujours la même formulation. Dieu est un être doté de toutes les perfections. C'est ce que la Bible affirme, vous êtes d'accord ? Une perfection qui n'existe pas n'est pas parfaite. Par définition, c'est quelque chose de parfait, c'est que ça existe. Donc, Dieu existe. C'est une première argumentaire. C'est un peu philosophique, mais on va essayer de mettre ça, de mieux expliquer. Pour Descartes, un philosophe du XVIe siècle, il est impossible de penser Dieu autrement que comme existant. Il est impossible de concevoir Dieu s'il n'est pas existant, pour Descartes. Pourquoi ? Parce que Dieu dépasse le cadre de notre pensée. Dieu, ce n'est pas un concept, une idée qu'on peut avoir qui vient de nous. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est cette idée-là. Donc, si on a cette pensée envers Dieu, quelque part, il existe. C'est un peu l'idée. Je poursuis. Ceux qui affirment que Dieu n'existe pas ne parlent pas du même Dieu. explique Descartes, mais seulement d'une parodie d'être suprême dont il est ensuite possible de nier l'existence. S'il connaissait le véritable Dieu, qui est parfait par nature, il ne pourrait lui enlever l'existence. Et Descartes continue, il affirme qu'il y a dans son esprit cette idée d'un Dieu infini. Or, puisque son entendement est fini, puisque notre entendement est fini, c'est pas normal qu'on ait cette idée d'infini. Bon, c'est philosophique, mais bon, il faut s'accrocher un petit peu là. C'est le passage le plus dur. L'idée, c'est que, en tant qu'être humain, je suis fini.
Je suis fini. Marion,
je n'avais pas prévu ça. Je suis fini, c'est-à-dire j'ai des limites. Je suis dans un monde limité. Et l'idée philosophique derrière, c'est si dans mon esprit, je conçois quelqu'un qui est infini, qui est au-delà de tout, ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de moi. C'est un peu le sens d'Ecclésias 3, verset 11 avant. On a dit le sens de l'éternité. Ça ne peut pas venir de moi. Et si du coup, j'imagine, je pense à quelque chose qui est infini, c'est que ce quelque chose qui est infini existe, parce que ça ne vient pas de moi. Il y a un gap entre penser à l'infini et avec pour un être fini comme chacun d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée? Cet argument va dans le sens en fait de Romains 1, verset 20, qui dit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Quand on a la réflexion d'un Dieu infini, d'un Dieu créateur du monde, quelque part, rien que le fait de réfléchir à ça, de penser en fait, c'est pas logique d'un point de vue humain. Ça semble vouloir dire que Dieu peut exister. C'est pas une preuve, c'est un argument. Autre argument, cosmologique, lié au cosmos. Jusqu'au XXe siècle, les sciences croyaient que l'univers était éternel et que l'idée judéo-chrétienne d'un commencement était peu probable. Jusqu'au XXe siècle, c'était ça. Ça a changé en 1929. Avec l'astronome Hubble, qui a publié un article qui a montré à partir d'observations que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne. C'est-à-dire que l'univers est en expansion. L'univers ne fait qu'une chose, il s'élargit, il grandit, à vitesse grand V. Il s'écarte. Donc, si l'univers s'écarte et s'agrandit, au fil des années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est proche de s'apaiser. Ce qu'on appelle, communément, le Big Bang. C'est intéressant d'ailleurs Big Bang, vous savez que en fait le Big Bang, c'est le physicien qui a eu cette théorie s'appelle Georges Lemaître. Et en fait, ceux qui ont appelé ça le Big Bang, c'était des gens pour se moquer de lui. C'est assez rigolo, en fait, ça a resté dans la postérité. Les gens qui se moquaient de lui, ben, ils s'étaient loupés, quoi. Clairement. Donc ça veut dire en tout cas que, a priori, l'univers a eu un commencement. D'accord ? L'univers a commencé un jour. Ce n'est pas quelque chose qui est éternel. L'expansion, ça veut dire que l'univers a commencé un jour. Et donc, il est plus raisonnable de croire aujourd'hui que notre univers a commencé à exister plutôt qu'il a toujours été comme ça. Ok ? Ça n'est pas tout ça. Donc, l'argument cosmologique, il se dit comme ça. L'univers a eu un commencement. L'univers a eu un commencement, j'ai oublié. Tout ce qui commence a existé à une cause. Quand quelque chose commence, ça a une cause. Toute chose qui commence a une cause. Ok ? L'univers a commencé à exister. Okay. L'univers est vivant, ça a démarré à un moment donné. Donc, l'univers a une cause. L'univers a une cause au départ. Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Et l'univers a une cause en tout cas. À partir de cette conclusion, le fait que l'univers a une cause, la seconde étape de l'argument cosmologique, c'est de se dire qu'est-ce qui peut être bien à la cause de ça? Et on peut imaginer, vu l'énergie, la puissance que ça demandait au démarrage, parce que cette cause a une puissance énorme. Étant en dehors de l'espace-temps à ce moment-là, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de chronos, c'est que ce qui est à cause de ce Big Bang, de ce démarrage, est hors du temps. Et pour aussi être capable de créer, de démarrer cette chose-là, c'est que cette cause doit être immatérielle. Parce qu'il n'y avait pas de matériaux au départ, il n'y avait rien. Ça a démarré, ça a pété. Donc, une cause hors du temps, une cause immatérielle, une cause qui a une puissance extraordinaire, ça va dans le sens de Jean 1, verset 1 à 5, qu'on a lu tout à l'heure. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'était créé
sans lui, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas éclipsé. C'est pas une preuve, c'est encore un argument sur Dieu. L'univers est un commencement. Quelle est la cause? Il a dû répondre à cause. Un Dieu qui est hors du temps, un Dieu qui est matériel, un Dieu qui est plus.
Troisième argument. L'argument téléologique. Pas théologique, hein, téléologique. L'argument téléologique, c'est un terme qui vient de télos, qui signifie objectif ou dessin. Un argument objectif, l'objectif derrière. Et on l'appelle aussi en anglais fine-tuning. C'est l'argument des ajustements fins. D'accord ? Du fait que l'univers a été. En tout cas, ce qu'on observe de l'univers est particulièrement fin, particulièrement fragile. Et ça postule en fait que l'exceptionnelle conception de l'univers implique l'existence d'un principe intelligent. Ok ? William Paley, voilà ce qu'il écrit, pour bien comprendre cet argumentaire-là. Il dit, c'est très imagé, je trouve ça super. Supposons qu'en marchant dans la lande, je tombe sur une pierre et qu'on me demande comment la pierre est arrivée là. Je pourrais répondre que, à ma connaissance, elle était là de tout le temps. Okay ? Il ne serait peut-être pas facile de montrer non plus l'absurdité de cette réponse, mais voilà. Mais supposez que j'avais trouvé une montre sur le sol et qu'on me demande comment la montre est arrivée là, à cet endroit. Je ne penserais même pas à ma présente réponse, car qu'à ma connaissance, la montre était là de tout temps. L'idée, c'est quoi? Si je me promène et je vois une montre, je ne peux pas imaginer un seul instant que cette montre était là toujours. Quand on voit la beauté de l'univers, le mécanisme précis et fin de l'univers, à quel point c'est fin, on va y venir. Le raisonnement de se dire bah, c'est toujours comme ça, il ne peut pas tenir, philosophiquement, il ne peut pas tenir ce raisonnement. On va y poursuivre. Voltaire disait, lui il n'est pas chrétien du tout, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Alors c'est quoi l'argument téléologique? Voilà. Il y a un réglage minutieux. Un réglage minutieux, le phénomène d'une cause. L'univers, c'est un réglage précieux et minutieux, on va le voir. Les lois physiques sont minutieusement réglées. Donc, les lois physiques doivent être l'effet d'une cause. Il doit y avoir une cause à ces lois physiques. Alors derrière cette cause, moi je vais mettre le nom de Dieu, bien sûr. Colin s'écrit, pour bien comprendre à quel point la beauté de l'univers. L'univers donne l'impression de savoir que nous allions venir. C'est fort comme cette phrase déjà débutée. L'univers donne l'impression de savoir que nous allions venir. Quand on le regarde du point de vue d'un scientifique, il existe 15 constantes. Bon, je n'ai pas tout mis, la gravitation, force nucléaire, il y en a beaucoup d'autres, les forces et les faibles, qui ont des valeurs précises. Si l'une ou l'autre de ces constantes avait différé d'un millionième, un millionième, l'univers n'aurait pas pu se présenter tel que nous le voyons. La matière n'aurait pas été capable de fusionner. Il n'y aurait eu ni galaxie, ni étoile, ni planète. Bien sûr, aucun d'entre nous. Fred Hoyle dit à ce propos, pour que ce soit plus clair encore, la probabilité pour que la vie soit le fruit du hasard est nettement inférieure à la probabilité qu'une tornade crée un Boeing 747 entièrement opérationnel en traversant une décharge. À ses origines, l'univers était très, 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 très bien ordonné. Et la probabilité pour que l'univers soit aussi bien ordonné qu'il est, et qu'on observe, que scientifiquement on peut observer les choses, est extrêmement faible, voire impossible. Des mathématiciens ont démontré que cette probabilité était de 10 puissance moins 10 élevé à la puissance 180. Comment ils ont réussi à retrouver cette probabilité? C'est en étudiant les trous noirs. D'accord? Toujours est-il, souvent on essaie de toucher un chiffre pour savoir comment le représenter. Ce chiffre-là, on ne peut pas le représenter. Pourquoi? Dans l'univers entier, d'après les physiciens, il y a 10 puissance 80 particules dans tout l'univers. D'accord? Là, c'est 10 puissance moins 10, 180. Donc 10 puissance 80, c'est un chiffre énorme. Encore, c'est 10 avec 80 zéros.
c'est tout petit comme chiffre par rapport à 10 puissance moins 10 puissance 3. Là, c'est un 0, c'est 2, c'est 2. Donc la probabilité, quand on arrive à ce genre de probabilité, c'est une probabilité qui est inexistante. C'est improbable d'avoir un univers réglé comme il est aujourd'hui. C'est improbable. Alors, quand on sort un argument fort comme ça, du coup, inverse, il y a quand même des idées. Richard Dawkins, par exemple, il répond à cet argument en disant qu'il existe peut-être des milliards d'univers. Que sur ces milliards d'univers, il y a la possibilité que dans un univers, il y ait eu de la vie. Mais en faisant cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'il fait Dawkins, qui est un grand scientifique, hein? Ben, il bascule de la science à la philosophie. Parce qu'il ne peut pas prouver qu'il existe des milliards et des milliards d'univers. Des milliards et des milliards d'espaces-temps différents. C'est improuvable. Plus de la science, la philosophie qui trouve cet argument pour ne pas être dérangé par cette statistique, cette probabilité. Et par rapport à cela, Alvin Pattinger répondait à Dawkins avec l'illustration que je trouve vraiment chouette aussi, suivante. Écoutez. Imaginez un homme qui, en distribuant des cartes au poker, s'octroie à 20 reprises une main comportant 4 as. 20 fois de suite. Tandis que ses compagnons dégainent leur revolver, le joueur déclare « Je sais, ça paraît suspect, mais s'il existe une succession infinie d'univers comportant toutes les distributions possibles au poker, cette possibilité se réaliserait dans un univers. Il se trouve que nous nous trouvons dans un univers où je m'attribue à chaque fois 4 as sans tricher. » Il continue « Cet argument ne convaincra personne. » Personne ne sera convaincu par ça. « C'est techniquement possible que cet homme se soit servi par hasard 20 mains consécutives avec 4 as. C'est possible techniquement. Cependant, bien que personne ne puisse prouver qu'il a triché, il ne serait pas raisonnable de conclure qu'il ne l'a pas fait. » Alors, si vous voyez un gars qui fait 20 mains de suite avec 4 as, vous n'allez pas réfléchir en disant « Oui, c'est possible techniquement, il arrive à faire 20. » Il a plusieurs dalles dans ses manches, bien sûr. Et c'est l'idée. Quand on voit cette précision, c'est de la probabilité, mais c'est improbable, complètement improbable. C'est techniquement possible que nous nous trouvions par hasard dans l'univers où la vie organique est apparue. C'est techniquement possible. Bien que vous ne puissiez pas prouver qu'un créateur se cache derrière l'ajustement fin de l'univers, ce n'est pas raisonnable de conclure que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas raisonnable. Un autre argument, l'argument rationnel. Lui se formule de la manière suivante. Un concept intelligent est l'œuvre d'un concepteur. D'accord ? Les lois physiques sont des concepts intelligents. Donc les lois physiques doivent être l'œuvre d'un concepteur. La question derrière cet argument, c'est celle-ci. Finalement, pourquoi l'univers est-il régi par des lois ? La loi de la gravitation qu'on aime tous, mais beaucoup d'autres lois. Il y a des lois qui sont intemporelles. Ça fonctionne comme ça. Pourquoi l'univers est régi par des lois? Et si ces lois n'étaient pas là, l'univers s'écroule. Pourquoi? Pourquoi l'univers n'est pas finalement chaotique, sans aucune loi? Ça fait tout et n'importe quoi. C'est étonnant finalement. Pourquoi l'univers a des lois? Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces lois sont formulées dans le langage de la raison. Un langage universel. Lequel? Celui des mathématiques. Les lois de l'univers sont régies par des lois mathématiques. On a tout Mais il y a un raisonnement logique derrière les mathématiques. C'est la logique. Pourquoi finalement on arrive à cette logique-là? Pourquoi ce n'est pas chaotique? Pourquoi il y a cette logique? Et c'est un langage universel. C'est un langage, bien sûr, certains scientifiques qui comprennent bien mieux que vous et moi. Mais pourquoi il y a ces lois? Et dans ce langage mathématique, dans ce langage raisonné, c'est pas logique, s'il n'y a pas un concepteur, ça doit être plutôt chaotique, ça doit être un truc qu'on n'arrive pas à faire une équation. Mais au contraire, on fait plein d'équations avec les lois de l'univers. Et cet argument, il est très bien résumé par Albert Einstein qui dit « Ce qui est incompréhensible, c'est pas normal que l'univers soit régi par des lois. Pas logique.
cinquième et dernier argument, l'argument moral.
Si Dieu n'existe pas, alors les valeurs morales objectives n'existent pas. Okay. Or, les valeurs morales objectives existent. Donc, Dieu existe.
Dostoïevski a écrit par rapport à cet argument.
Mais alors, que deviendra l'homme sans Dieu et sans immortalité? Tout est permis, par conséquent, tout est licite, tout est permis. On peut faire tout et n'importe quoi.
Un ordre moral objectif, c'est l'opposé de subjectif, on est d'accord. Ça veut dire que quelque chose est bien ou mal, indépendamment de l'opinion qu'on peut s'en faire. Et moi, je crois qu'il y a une moralité objective qui nous concerne tous. Si nous prenons par exemple le massacre des Juifs pendant l'Holocauste, un exemple important. Ce massacre était objectivement mauvais. Même si les nazis, imaginons, avaient gagné, qu'aujourd'hui on serait dans un monde gouverné par les nazis, le massacre des Juifs était objectivement mauvais. Ce n'est pas subjectif, c'est objectif, objectivement mauvais. Ok ? La réelle question derrière la première prémisse, c'est de dire si Dieu n'existe pas, est-ce qu'il peut y avoir réellement des valeurs morales objectives? Est-ce que, pourquoi tous les hommes, les femmes, à travers le monde, à travers les siècles, ont des certaines valeurs morales qui concernent tout? Pourquoi finalement? C'est vrai que la croyance en Dieu n'est pas forcément nécessaire pour que les valeurs morales existent. Mais l'existence de Dieu est nécessaire. Le fait de croire en Dieu ou non ne change rien en ce qui concerne ces valeurs morales. Il y a des valeurs morales qui sont intrinsèques à chacun d'entre nous. Pour les chrétiens, Dieu est le créateur de cet ordre moral au même titre que de l'ordre naturel. Pourquoi on a chacun cet ordre moral par rapport au fait de la vie? Et je pense que Dieu nous a donné cette valeur morale qui est intrinsèque à chacun d'entre nous. La conclusion donc logique de cette idée-là, c'est que Dieu existe parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal qu'on ait tous, chaque homme, chaque être vivant, chaque homme et femme, cette valeur morale objective. Ce n'est pas logique. En conclusion, après, s'il y a des questions, on reviendra. En conclusion, beaucoup rejettent l'existence de Dieu parce qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prouver scientifiquement Dieu. On ne met pas Dieu dans un bocal, encore une fois. Mais je crois que ce n'est pas la vraie raison pour laquelle les gens rejettent Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement. C'est plutôt que si on admet qu'il y a un Dieu, alors on est responsable devant lui. Et alors, on est confronté à lui. Avoir la foi en Dieu, pour conclure, ce n'est pas un grand saut mystique où je me jette dans le vide en espérant qu'il y ait quelque chose. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais je pense que avoir la foi, c'est une démarche de foi, bien sûr, et savoir un pas sûr dans une pièce bien éclairée. Et je ne me jette pas du 10e étage en ayant foi en Dieu. Mais je sais, en ayant foi en Dieu, même si c'est une démarche de foi, je suis juste en train d'ouvrir une porte. Et je pense dans ce sens-là que avoir la foi, c'est une démarche raisonnée, raisonnable. Cette démarche raisonnée, raisonnable ne me suffira pas pour croire en Dieu. C'est une question de foi. Mais ma foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Ma foi, elle repose sur des arguments essentiels, importants. Ce n'est pas qu'une question de mysticisme. C'est une question pour dans notre société aujourd'hui, on a l'impression que on dit qu'on est chrétien, que comment tu peux croire des choses comme ça à notre époque, quoi. Non, il y a de la logique, il y a des choses solides derrière. Et à celui ou celle qui est en face de vous, peut-être parfois, de ne pas croire en Dieu, c'est de lui expliquer qu'elle aussi, lui aussi, ne fait pas de foi en disant ça, en affirmant ça. C'est pas plus logique de ne pas croire en Dieu que de croire en Dieu. Et c'est pas une histoire de logique, la foi chrétienne, on est d'accord. Mais c'est pas plus logique de croire en Dieu que de ne pas croire en Dieu. Je finis juste avec quelques citations de scientifiques qui montrent que la science et la foi ne sont pas incompatibles, loin de là. Ce n'est pas forcément des scientifiques pour ça.
Kepler. Nous voyons comment Dieu, à la manière d'un architecte humain, a fondé le monde, il a ordonné et agencé par les lois. Pasteur. Un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup de science ira même. Newton. Ce système si beau peut provenir uniquement du conseil de la domination d'un être intelligent et puissant. Einstein. L'harmonie de la loi naturelle révèle une intelligence d'une telle supériorité qu'en comparaison, toute la pensée systématique et tous les actes des êtres humains ne sont qu'un repère plus ou moins significatif. Et Hawking. La probabilité qu'un univers comme le nôtre ait émergé d'un Big Bang est infinitésimale. Je crois nettement qu'il y a des implications religieuses quand on commence à discuter des origines du univers. Il doit y avoir des nuances religieuses, mais je pense que la plupart des savants peuvent faire l'idée de cette espèce de question. Hawking, et je ne sais pas si certains le connaissent, c'est sans doute le scientifique le plus reconnu internationalement aujourd'hui. C'est un athée convaincu. Et par rapport à cette phrase, il a un peu changé d'avis. Comment il a fait en fait? Il ne peut plus croire en un Big Bang. Parce que comme il le dit dans cette phrase, s'il y a un Big Bang, ça veut dire qu'il y a une cause, et cet aspect-là, il ne peut pas le concevoir. Du coup, depuis quelques années, il essaie de prouver qu'il n'y a pas de Big Bang. Il essaie de démarrer autre chose. Parce que comme il le dit, il y a forcément une implication religieuse à la fête de la Big Bang. Comment, pourquoi ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, bien sûr. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Ouais, c'est un problème, avec plaisir. Bien sûr. Juste.